Donc moi, je m'appelle Jean-Luc Aubarbier. Je suis dans le livre, je dirais, depuis plus de 30 ans, puisque, enfin, depuis que je sais lire, à la limite. Mais j'écris depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis également libraire à Sarlat. Je fais aussi de la chronique littéraire, mais je suis vraiment dans le bouquin et puis des conférences. Je suis dans le bouquin tout le temps, enfin, presque 24 heures sur 24. Donc je vais essayer de vous parler d'abord du livre que je viens de... que je vous présente ici. C'est un thriller, c'est mon premier thriller. J'ai écrit jusqu'à présent beaucoup de d'essais historiques ou de guides touristiques chez Ouest-France ou chez Sud-Ouest. Et j'ai fait des romans historiques chez Lattès. Et là, j'avais envie de me mettre sur un thriller parce que c'est un style différent, c'est un rythme d'écriture différent. Un thriller avec une base historique aussi, puisque moi, je suis historien de base. Bon, c'est ce qui me branche, je dirais, l'histoire et l'histoire des religions en général. Donc j'avais envie d'accrocher sur un thriller, et puis un thriller avec de l'histoire, et aussi avec de l'ésotérisme, parce que j'aime ça, j'aime tout ce qui touche aux Templiers, à la franc-maçonnerie, au Qatar, en fait, tout ça. Cet univers, j'ai beaucoup écrit sur cet univers-là, j'ai fait beaucoup de conférences dessus, donc j'avais envie d'écrire sur ça. Donc je suis pas... Ce qui m'a servi de base, je dirais, c'est un lieu un peu magique qui existe à côté de Sarlat, à 15 km. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent, qui l'ont visité, qui s'appelle le château de Comarque. Comarque, c'est le Machu Picchu du Périgord. Vous imaginez un tas de ruines, une espèce d'immense colline avec des ruines, des donjons qui dépassent, des maisons en ruines un peu partout. Il y a tout ce qu'on appelle une motte féodale, un ensemble de maisons nobles, en plein milieu des bois, au-dessus d'un marécage, un énorme marécage. Vous avez donc ces maisons nobles qui sont recouvertes de végétation. Au-dessous, il y a un fort troglodytique où habitaient les paysans à l'époque. Donc, c'est une falaise creusée de trous et de grottes. Et au-dessous, vous avez une grotte préhistorique. Le tout dans les bois et les marécages, c'est absolument génial. Et de l'autre côté des marécages, vous avez un autre château avec le même système, une falaise. Etc. Donc, il y avait un cadre déjà qui était assez génial. C'est le cadre où, quand j'étais adolescent, j'allais traîner en mobylette avec tous les gamins du Sarladais, et largement, mais autour de Sarlat, allaient rentrer dans ces ruines qui étaient interdites et dangereuses à l'époque. Donc on y allait d'autant plus souvent que c'était interdit et dangereux. Et c'est vrai que j'en avais beaucoup fantasmé sur ce coin-là. Et donc j'ai toujours eu envie d'y situer un roman. Et l'actuel propriétaire du château de Comarque, qui s'appelle Hubert de Comarque, qui a racheté les ruines du château de ses ancêtres, Mado, que je connais bien, donc qui essaie de restaurer, mais d'entretenir comme il le peut ces ruines pour qu'elles ne tombent pas complètement en ruine, m'a donné le cahier archéologique de son château. Et là, il y avait un ensemble de choses, et j'ai envie de dire, il y avait toutes les bases pour écrire un thriller. C'est-à-dire que vous aviez, d'une part, le blason des Comarques porte l'Arche d'Alliance. C'est la seule famille noble d'Europe à porter l'Arche d'Alliance sur son blason. Alors déjà, l'Arche d'Alliance, on est déjà un peu dans Indiana Jones, on est déjà un petit peu dans l'idée de faire quelque chose d'aventure. Ensuite, vous avez, c'est un ancien site templier, donc les Templiers, ça rajoute une deuxième couche sur le côté un peu mystérieux, ésotérique, etc. Ensuite, vous avez dans ce château en ruine, gravé dans le donjon, un échiquier, c'est le titre, s'appelle l'échiquier du temple. Voilà, ça vient de ça. Vous avez effectivement un échiquier gravé. Donc, on peut imaginer un tas de choses à partir de ça. On a trouvé ensuite dans ce château, c'est Hubert de Comarque lui-même qui l'a trouvé, un chandelier qui vient de Limoges, du XIIIe siècle. Et on a trouvé deux chandeliers identiques à Bethléem, en Terre Sainte. On commence à l'Arche d'Alliance, la Terre Sainte, les Templiers. Le chandelier, vous voyez déjà, pratiquement, avec le cahier archéologique de Comarque, vous voyez comment le livre s'est construit quasiment tout seul, et comment déjà l'intrigue se faisait un petit peu toute seule. Et en plus, dans ce cahier archéologique, qui raconte un petit peu tout ce qu'on sait sur Comarque, il y a le début d'une chanson de geste qui n'a jamais été publiée, qui est la Geste des Comarques, c'est une très très vieille famille noble qui remonte au XIe siècle, et qui raconte à l'époque de Charlemagne, c'est plus ou moins légendaire, ça n'a aucune importance, que Girard de Comarque a épousé une princesse musulmane qui est la fille d'Amirante de Cordoue. Donc voilà, là on avait encore une fois des liens avec le monde arabe, le monde arabo-musulman, et ce château de Comarque. Donc moi je suis parti de ces éléments-là pour construire mon thriller. Pour construire mon thriller, comme tout bon thriller, j'ai dit je vais le faire un petit peu comme font Éric Giacometti et Jacques Raven. Vous avez peut-être lu déjà les romans de Giacometti et Raven, qui sont des thrillers maçonniques, ésotériques, un petit peu dans le style du mien. Et effectivement, un petit peu comme eux, j'ai dit je vais faire une alternance deux chapitres qui se passent de nos jours, deux chapitres dans le passé, au Moyen-Âge, deux chapitres de nos jours. Donc vous voyez, pour faire créer un rythme un petit peu rapide dans, dans l'écriture de ce roman, c'est ce qui différencie beaucoup un thriller d'un roman historique où on va s'étaler pendant 10 chapitres sur une scène, alors que là, on doit avoir un rythme beaucoup plus rapide, hein, c'est une écriture différente. Et donc j'ai raconté cette double histoire, d'une part de nos jours, au début du XXe siècle, XXIe siècle, donc mon héros, qui sera un héros récurrent, puisqu'il y a des suites à prévoir, donc, qui s'appelle Pierre Cavaignac, archéologue, qui a passé son enfance, son adolescence à traîner dans les ruines de Comarque, est chargé par une un peu mystérieuse fondation américaine de fouiller cet endroit où il a joué adolescent. Et donc, pour lui, c'est vraiment un rêve, quoi. Il veut aller fouiller cet endroit où il a traîné, où il a imaginé un tas de choses. Donc, on lui confie des fouilles de Comarque. Et il sent bien que ce n'est pas très, très net, cette histoire-là, qu'on sent bien qu'on essaie de lui faire découvrir quelque chose sans trop lui dire quoi. Donc, il est un petit peu sur la retenue. En plus, on lui donne une adjointe qu'il perçoit un peu comme une espionne au début, qui s'appelle Marjolaine Karadec, qui est archéologue comme lui. Il s'en méfie un peu parce qu'il a l'impression qu'on lui met dans les pattes un petit peu pour le surveiller son travail. En fait, ils vont s'apercevoir tous les deux qu'ils sont tous les deux francs-maçons et donc qu'ils partagent une fraternité initiatique et qu'ils peuvent avoir confiance l'un dans l'autre. Et qu'en plus, grâce à la franc-maçonnerie, ils vont avoir une grille de lecture des éléments qu'ils vont découvrir dans ces ruines de Comarque. Et donc à partir de là, ils vont avoir une confiance tous les deux, ils vont mener leur propre enquête dans le dos de leur patron, parce qu'il y a toute une série, il y a des meurtres qui arrivent sur le chantier, il y a des sabotages dans le chantier, donc le chantier de fouilles se passe très mal. Et donc ils vont mener leur propre enquête et ils vont bien sûr découvrir progressivement ce dont je vous ai parlé, le blason des Comarques, le chandelier gravé, le chandelier suspendu à la muraille, l'échiquier qui est gravé dans le donjon. Progressivement, au fur et à mesure de la lecture, on avance dans cette on découvre petit à petit tous les éléments qui vont faire le mystère de Comarque. Et alors en parallèle, un chapitre sur deux, on suit l'aventure de Gérard de Comarque, qui se fait templier au début de l'ordre du Temple, donc qui donne son château aux Templiers et qui part en Terre Sainte. Et là, on lui confie une mission particulière. Il découvre déjà que les Templiers ne font pas que combattre les musulmans, mais qu'ils travaillent aussi avec certains musulmans. Mon thème de travail, toujours, c'est un petit peu la guerre de religion, l'épée des religions aux différentes époques. C'est pour ça que j'ai écrit sur les cathares, que j'ai un roman à venir sur la guerre de religion au XVIe siècle. Moi, je suis toujours dans ces domaines-là. Et donc, je vais travailler. Là, j'imagine, effectivement, partant là aussi de phénomènes vrais, que les Templiers, certains musulmans, notamment les musulmans de Damas, et les Juifs essaient de travailler ensemble à faire une sorte de paix universelle au lieu de passer leur temps à se faire la guerre. Et que pour ça, ils ont besoin de rassembler les éléments fondamentaux qui est à l'origine des trois religions du livre, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance et le Suaire du Christ. Le Suaire du Christ qui, à cette époque-là, n'est pas celui de Turin, qui est absolument inconnu, mais qu'on va retrouver exposé à Cadouin en Périgord. Ça aussi, c'est assez authentique. Donc effectivement, vous allez voir, on a l'Arche de l'Alliance qu'on va retrouver à Comarque, le Suaire qu'on va retrouver à Cadouin. Donc notre templier va fouiller avec ses amis, va là aussi mener son enquête. On suit presque les mêmes objets, si vous voulez. On suit leur trace archéologique en Périgord et on suit leur découverte en Terre Sainte. Et bien sûr, les deux histoires, je ne vais pas vous raconter la fin, mais toute l'histoire, ce sont des parallèles qui convergent en quelque sorte. On finit par se rejoindre. Donc voilà un petit peu l'intrigue de cet échiquier du temple, qui est donc mon premier thriller après les romans historiques. Et toi, je te laisse présenter ton roman à toi.
Alors moi, je vais être beaucoup plus succincte que Jean-Luc. Et... moi, c'est une démarche beaucoup plus égoïste, on va dire, puisqu'en fait, même si bien sûr Jean-Luc, son livre a des racines dans son enfance, moi, ça part entièrement de là. Donc Séverine Delacroix, j'ai 29 ans, j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans, en fait mes parents étaient en procès pour récupérer ma garde pour la troisième fois et j'en avais vraiment marre de tout, enfin voilà, donc comme tous les enfants on a un univers qui nous permet de nous en sortir, il y en a c'est le foot, la peinture, etc. Moi je me suis rendu compte que c'était l'écriture, j'ai commencé à écrire, je me souviens puisque j'écrivais sur mes petits cahiers. Et j'avais imprimé sur disquette en me disant comme ça, je serais sûre de l'avoir à vie. Donc le roman est sur disquette, je ne peux pas le lire. Et ça s'appelait Apprends-moi la vie. Donc c'était l'histoire d'une petite fille qui était placée en foyer, qui ne voulait plus vivre. Et forcément, elle raconte un garçon qui est tombé amoureuse, blablabla, etc. Et en fait, c'est en écrivant ce livre que j'ai vraiment compris que c'était l'écriture mon moyen d'expression. Parce que jusqu'à présent, je faisais aussi des romans manuels, j'ai toujours fait du cheval, enfin, j'ai toujours fait plein de choses. Mais là, j'ai découvert dans l'écriture que ça me permettait de réaliser des choses consciemment qui ne me remontaient pas à l'esprit, en fait. Qu'en écrivant, en relisant, je me disais, Ah oui, mais c'est ça en fait qu'il y avait en moi où je comprenais des choses qui étaient tellement embrouillées dans mon cerveau où il y avait tellement de choses, en fait, je ne les voyais pas. J'ai tourné la page, le procès est fini. Et en fait, quand j'ai eu 19 ans, il y a un autre événement familial qui fait que je suis partie aux États-Unis et j'ai écrit mon premier vrai roman, Couloir de gauche, qui a été édité un an plus tard. Où là, pareil, c'était suite à un besoin familial. Et en fait, en écrivant ce roman, j'ai compris en fait beaucoup plus sur moi-même que toutes ces années où j'étudiais et je cherchais, enfin, où ça sortait pas en fait. C'est d'ailleurs là comme ça que j'ai rencontré Jean-Luc, qui était mon premier chroniqueur littéraire, qui m'a dit à l'époque que je continuerais à écrire, que je savais faire un plan, alors que je n'avais fait en fait strictement aucun plan, tout était sorti de moi. Je me souviens parce que je suis partie aux États-Unis et chez mon frère. J'écrivais sur son ordinateur, alors en plus il n'y a pas d'accent sur les claviers américains, donc j'ai dû reprendre tout le livre pour ajouter tous les accents, donc ça a été une catastrophe, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai absolument pas fait de plan, en fait le livre est sorti tout seul, et par la suite tous les romans que j'ai pu écrire, en fait à chaque fois je ne réfléchissais pas, ça sortait tout seul, c'était pas quelque chose de conscient. Et au fur et à mesure, c'était sous un pseudonyme à l'époque, parce que je ne voulais pas que ma famille soit au courant, parce que pour eux, la littérature était un passe-temps, comme on peut faire des tartes ou jouer aux cartes. Enfin, ce n'était pas quelque chose de noble, en fait, pour eux. Pour eux, c'était le commerce, les études, ils voulaient que je sois notaire, avocat ou patron d'entreprise. Enfin, la littérature, c'était vraiment une perte de temps. Donc, en fait, parallèlement à mes études, j'avais commencé à éditer. Et je leur racontais que j'allais réviser mes partiels alors que j'étais en salon du livre. Je travaillais aussi dans le cinéma. Donc, j'étais au Festival de Cannes en leur disant « Oui, oui, mes cours se passent très, très bien, merci ». Et ça m'a pris quelques temps donc, pour oser donc, sortir ce livre, qui est le premier sous mon vrai nom, donc aux éditions Michel Lafond. Où en fait, donc, petit à petit, je me suis rendu compte par l'écriture qu'au-delà de ce que ça sortait de moi, ce qui me passionnait en fait, c'était d'emmener le lecteur dans une histoire où en fait on joue avec lui et où il devient le propre créateur aussi de l'histoire, dans le sens où il anticipe, donc c'est-à-dire vraiment faire ça dans un thriller, donc en l'occurrence un thriller familial, parce que enfin c'est absolument extraordinaire de créer cette chose où on fait corps en fait avec le lecteur et on sait que quand il va lire, il va être là avec nous et il va pas savoir où on l'emmène en fait. Donc je suis partie des propres questions sur ma famille et sur le mensonge, dans le sens où j'ai étudié la psychogénéalogie, je ne sais pas si vous voyez à peu près, donc, c'est-à-dire, comment l'expliquer ? On est tous le fruit de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de ce qu'ils ont fait, et ça reste marqué en nous par rapport à nos batailles, à nos interrogations. Et souvent, en fait, on n'a pas conscience de notre chemin parce qu'en fait, on ne connaît pas notre passé. C'est Elie Wiesel qui a écrit « Ceux qui ne connaissent pas leur passé sont condamnés à le revivre ». Et moi, je me suis rendu compte dans ma propre vie, j'avais fait une coupure par rapport à ma famille parce que j'avais honte de ma famille. Et inconsciemment, en voulant rompre avec eux, en fait, j'ai reproduit le schéma familial. Et donc, je suis partie dans cette histoire où donc Manon, mon héroïne, a rompu d'après les liens avec sa famille, s'est équilibrée, a rencontré Nicolas, avec qui elle est en couple et tout se passe bien. Et finalement, un événement va l'obliger à retourner dans sa propre vie pour réaliser en fait qu'elle n'est pas du tout celle qu'elle croit et que, alors qu'elle se croyait libérée, en fait, elle est toujours le jouet de sa famille et que finalement, elle continue ce cheminement et qu'elle n'en est absolument pas libre. Et donc, ce livre, pour moi, c'était vraiment prendre conscience du fait que tant qu'on ne connaît pas ses racines, tant qu'on ne connaît pas qui on est, qu'on ne connaît pas l'histoire de nos parents, on ne peut pas en fait simplement être libre d'avoir notre propre histoire. C'est très important, rien que quand est-ce qu'on est né, quels étaient les rêves de nos parents, rien que le prénom. Quand on porte un prénom, ça a un sens. Est-ce que c'est le prénom de notre grand-père ? Est-ce que c'est le prénom d'un héros ? Enfin, pourquoi est-ce que nos parents nous ont désirés ? Pourquoi ils nous ont appelés comme ça ? Quels rêves ils ont portés sur nos épaules qui font que nous, on continue notre chemin inconsciemment avec ça. Et si on ne le sait pas, pour moi, on n'est pas libre d'être réellement qui l'on est. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre.
Je l'ai lu, il est très bien. Mais c'était gratuit. Non, c'est pour, bon, pour revenir un petit peu, je dirais, au travail d'écrivain. Donc, les titres des livres, ça se met toujours à la fin.
C'est l'éditeur, souvent. Voilà,
ça gâche beaucoup de choses. C'est mon sixième ou septième roman. Il y en a plus, au moins trois, voire quatre, où on a changé le titre au moment de l'édition. Donc, effectivement, je l'avais appelé. J'avais joué sur le thème de Comarque, si vous voulez. J'avais appelé ça le ventre de Comarque, parce qu'en fait, il y a une citation que je mets en début du livre, de Georges Duby, qui a travaillé sur Comarque. Georges Duby, grand historien, je ne présente pas, et qui dit Comarque est un ventre. Parce qu'il dit, effectivement, quand vous visitez Comarque, c'est un énorme donjon, mais moi, impressionne un énorme donjon, et l'intérieur, c'est tout petit. C'est une pièce qui est plus petite que ça, quoi. Les deux grandes pièces côte à côte, elles font plus petites que ça, si vous voulez. Et donc, il dit, Duby dit, c'est en fait le donjon au Moyen Âge, c'est symbolique. C'est une histoire symbolique. C'est pas une histoire de tellement de défense. La défense est une chose, mais c'est surtout un symbole. C'est le symbole du ventre, c'est-à-dire de la femme qui porte la génération de la famille en définitive. Et donc, c'est pour ça que j'avais cité ça, le ventre de Comarque, parce que la question se pose dans mon roman. Dans mon roman, lorsqu'il se fait templier. Gérard de Comarque, qui est marié, envoie sa femme au couvent, ce qui se faisait à l'époque. Le Templier est un moine, donc forcément, ils font vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, comme tous les moines. Et s'ils sont mariés, effectivement, ils peuvent envoyer leur femme au couvent. Qu'elle soit d'ailleurs plus ou moins d'accord ou pas, étant secondaire. Donc effectivement, il envoie sa femme au couvent. Ce qu'il ignore, et ce qu'il ignorera toujours, c'est qu'elle est enceinte quand il l'envoie au couvent. Ils n'ont pas d'enfants, ils pensent qu'ils n'auront pas d'enfants. Et donc, il y a une généalogie qui va se faire. Effectivement, on revient sur l'histoire de la généalogie, on n'y échappe pas. Il y a une généalogie qui va se faire à travers donc, cette dame de Comarque qui, elle, meurt, mais sa famille à elle va recueillir cet enfant et va garder une descendance, et donc une rivalité. Vont avoir un œil de propriétaire sur cette commandée templière qu'ils estiment qu'on leur a volée. Et donc, à travers tout le roman, on aura une malfaisance, si vous voulez, entre cette commanderie des Templiers, et puis les voisins qui, eux, c'est qui s'appellent les vassals, famille de vassals, que j'ai imaginé, hein, qui essaient toujours de récupérer leurs biens, et à travers siècles, ils vouent une haine viscérale à cette famille de Comarque. Donc voilà, ça s'appelait au début le ventre de Comarque. Mais l'éditeur a trouvé que ça faisait trop local, il ne voulait pas que le mot Comarque apparaisse. Alors ça, c'est partie des grandes discussions qu'on a avec l'éditeur. Il me dit, il a sûrement raison. Un éditeur a toujours raison, c'est lui qui paye. Enfin, donc il a raison. Donc il m'a dit, proposez-moi d'autres titre, j'en ai proposé 5 ou 6, dont l'échiquier du temple, effectivement, j'ai dit, ce serait bien qu'il y ait le mot temple dans le titre. Je dis, bon, le temple, ça peut être le chandelier du temple, ça peut être, en observant des pièces qu'il y avait dans le livre, et j'ai proposé, donc, puisqu'il y avait l'échiquier qui apparaissait, et j'ai fait de l'échiquier à des instruments qui révèlent, alors je vous dis pas, parce que je n'ai pas lu le livre, je vous dis rien, mais effectivement, cet échiquier va révéler ce qui s'est passé, effectivement, les événements qui se sont passés en 1307 au Moyen-Âge, selon mon imagination. Ça, l'échiquier existe. Après, ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'imagine. Et donc, voilà, on l'a appelé l'échiquier du temple parce que ça paraissait un bon titre. Mais je vous dis ça, 4 fois sur 6, on a changé le titre de mes romans au dernier moment parce qu'il y a un titre d'écriture. Moi, souvent, je le sais. Je sais que j'ai un titre qui n'est pas forcément très bon. J'écris sous un titre. L'éditeur le lit sous ce titre-là. Puis, une fois qu'on a signé, on change. Voilà, très souvent.
En fait, l'éditeur a des éléments commerciaux que nous, en tant qu'auteurs, on n'a pas. Et c'est vrai que le titre comme la couverture, c'est eux qui choisissent en fonction des goûts du moment, de ce qui est sorti, etc. Et après, c'est comme le travail d'écriture, c'est-à-dire qu'eux, ils vont voir des choses que nous, on ne voit pas forcément, parce que quand on écrit, on est dans le sujet. Et c'est pour ça que le travail d'écriture avec un bon éditeur, c'est passionnant, parce qu'il va nous emmener là où on ne pensait pas être capable d'aller, où on n'avait pas du tout vu. Il va nous faire travailler un personnage qu'on avait mis de côté sans même se rendre compte. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a plu en étant avec Michel Lafon, c'est que mon éditeur m'a fait énormément travailler. J'ai été ravie de toutes les corrections parce qu'à chaque fois, je repartais avec une pile comme ça en me disant « chouette », parce que c'était comme ça que je grandissais en fait. Notamment, c'est voilà, ce chapitre-là, pourquoi est-ce que tu le développes? Pourquoi est-ce que comme ça? Pourquoi tu l'as mis à la première personne? Pourquoi ce personnage-là, tu le mets pas en avant? Enfin, c'est des choses, en fait, où on se rend pas compte. Et quand on revient dessus, on dit, mais oui, mais pourquoi? Mais comment j'ai fait pour pas le voir, en fait? Et en fait, c'était tellement caché que c'était impossible et qu'il nous faut justement une personne extérieure pour le voir. Et puis même après, on a tous des défauts de langage. Moi, je sais que j'avais un problème avec le cœur. Mon cœur battait, s'arrêtait, recommençait, dérapait. Enfin bon, il y en avait dans toutes les pages. Donc maintenant, j'arrête. Dès que inconsciemment, je commençais à écrire, son cœur s'arrêtait. Non. On arrête avec le cœur, on va mettre autre chose. Moi, je sais que c'était mon défaut. Je sais pas quel était le tien. T'en avais forcément.
J'en ai beaucoup. Moi, je suis pas très dialoguiste. J'aime bien je suis beaucoup dans la description. Je suis pas très bon dans les dialogues. J'ai pas une écriture naturellement dialoguée. Moi, quand j'écris, je suis un cinéaste. Moi, je vois l'histoire. Je le vois. Et je décris ce que je vois. Tout simplement. C'est ma manière d'écrire. C'est pour ça que mon premier roman avait été acheté par la télévision, parce qu'effectivement, la productrice m'avait dit « Vous avez une écriture très, très, très de scénariste. » Je dis « Je sais pas, j'ai jamais fait de scénario. » Je dis « Mais moi, j'écris comme ça. Moi, j'imagine l'histoire. Je vois, j'écris. » Alors, par contre, j'aime pas beaucoup les dialogues. Alors, après, je retravaille les dialogues. Là, celui-ci, je l'ai retravaillé, en fait, pas avec l'éditeur, mais avec Jacques Raven, qui est un ami, qui est un des grands, grands vendeurs de thrillers en France. C'est ça. Chez la Comédie Raven, c'est un des plus gros vendeurs de thrillers en France. Il habite dans le Lot, à côté de chez moi, donc on se connaît bien. Et lui aussi, il a d'ailleurs postfacé mon bouquin en disant « J'ai toujours rêvé d'écrire sur Comarque. Jean-Luc Aubarbier l'a fait. » Parce que lui aussi, il aurait voulu faire un thriller sur Comarque. Et lui a lu ma première version. Je vois que j'avais tendance, moi, à être dans l'histoire, dans le roman historique. Il m'a fait travailler ce qu'on appelle les cliffhangers, les ruptures. On finit un chapitre sans le finir. On ouvre la porte et puis on ne dit pas ce qu'il y a derrière. Chaque chapitre se finit par une interrogation et pas par une affirmation. Ce qui se fait dans les romans traditionnels. Donc ça, Jacques Ravel me l'a fait travailler. Par contre, effectivement, chez La Thèse, j'avais travaillé avec l'éditeur pour effectivement redévelopper certaines parties, restructurer, déplacer. Ça fait partie. Un bon éditeur, il aide à accoucher le roman. Quoi. En fait, il aide à nous accoucher, à nous montrer nos défauts et à nous aider à aller plus loin dans l'écriture.
C'est vrai que oui, c'est ce qui est passionnant en fait, dans le fait d'être publié, c'est que quand on écrit souvent chez soi, on écrit, c'est jouissif, c'est comme découvrir une terre étrangère, on part vraiment en explorateur. Mais en fait, retravailler avec un éditeur, enfin, pour moi, c'est l'équivalent de faire une magnifique table avec des plats magnifiques à présenter devant des gens, où vraiment, c'est au-delà du goût, ça va être aussi la présentation, ça va être les couleurs, ça va être juste faire que de A à Z, ça soit juste parfait, ça coule, en fait. Et quand on arrive à ce stade-là, ça devient extraordinaire d'être capable de manier les phrases un peu comme si, voilà, vous étiez sur une rivière, vous êtes sur le bateau et juste la barque vous emmène. Vous avez juste à observer le paysage et c'est parfait. Vous vous rendez même plus compte que vous êtes en train de lire, en fait, ça coule tout seul. Et quand on arrive à ça, là, c'est vrai que c'est juste extraordinaire. Après, on prend beaucoup de vacances parce qu'on a le cerveau qui est complètement saturé. Non, avant, on a les corrections, ça, c'est beaucoup moins drôle, les corrections. La période correction est pas très sympa.
Après, on se remet. C'est que quand on écrit un roman, généralement, un livre en général, jusqu'au moment où on a fini, on l'a entièrement dans la tête. C'est-à-dire qu'on sait pratiquement par cœur.
Toutes les phrases.
Chaque phrase, c'est presque lettre par lettre. On peut dire, oui, c'est le mot, je l'ai utilisé là. On le sait pratiquement par cœur. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement fatigant. C'est pour ça que c'est une question des fois qu'on me pose, on dit, mais tu sais comment, quand est-ce que tu sais que c'est fini? Je dis, mais c'est fini quand j'en ai vraiment ras-le-bol, que je ne peux plus supporter le roman, qu'il faut absolument qu'il sorte de moi. C'est vraiment un accouchement.
Et qu'on commence à en avoir un autre.
On a envie d'écrire autre chose, et puis c'est vraiment un accouchement. C'est insupportable, il faut vraiment que je me débarrasse de ce livre, je ne le supporte plus. Et là, c'est qu'il est fini, c'est comment on peut plus, on est allé un peu dans ses limites. Et c'est là où des fois l'éditeur vous aide à aller encore là. Parce que effectivement, lui peut ouvrir une autre porte, peut ouvrir, vous dire ça c'est pas pour faire traiter autre chose. Il a son regard professionnel, bien entendu. Mais je reconnais que moi, j'essaie de rendre le manuscrit le plus propre possible pour avoir le moins de corrections possible. Parce que j'ai un peu horreur de ça.
Non, et puis c'est vrai qu'il y a des corrections. Moi, sur celui-là, j'en avais une très jolie. On m'avait demandé de diminuer de 30% le nombre d'adverbes du roman. Là, on rentre chez soi et on a juste envie de le jeter par la fenêtre.
Mission impossible.
Mais il faut le faire. Donc, non, la période correction n'est pas la plus sympa.
Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour la partie conception.
Vas-y. Au fur et à mesure des corrections, moi, je sais que je note la date à chaque fois pour m'en souvenir. Parce que sinon, ce n'est pas possible, je m'y perds. Et puis, comme je suis toujours en train de faire des sauvegardes sur clé USB, sur machin, etc., parce que rien que je travaille un peu partout, souvent dans le train, si je me fais voler mon ordinateur, il y a juste tout mon travail dedans. Donc, généralement, j'ai une sauvegarde sur ma clé dans mon sac à main, une sauvegarde sur disque dur chez moi, une sauvegarde sur de clé qui est avec mes clés de maison. Donc, du coup, à chaque fois, il y a les dates, parce que sinon, je ne sais plus où j'en suis dans mes sauvegardes. Donc, oui, au niveau des corrections, j'ai toujours les premières versions. Et c'est vrai que c'est très sympa en fait de lire la première version une fois qu'on a fait la finale en se disant ah ouais quand même on a bossé là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'au début on se dit non mais c'est moi qui écris ça. Et c'est vrai que c'est une fois que... En fait c'est comme un jardin où il y a des mauvaises herbes. Pour moi la première version c'est ça, c'est un magnifique jardin avec des mauvaises herbes. Donc ça a l'air joli mais on ne sait pas trop. Une fois qu'on a enlevé toutes les mauvaises herbes on se dit bon c'était pas mal. Sauf que comme à chaque fois, comme tous les écrivains, on n'est absolument pas satisfait et donc on se replonge dans le suivant en disant que peut-être que cette fois-ci, on réussira à faire un roman qui nous plaît. Comme on n'y arrive jamais, à chaque fois on recommence.
Voilà. En plus, comme moi, je suis vieux, moi. Donc, moi, mes premières versions, elles sont faites à la plume. Tous les romans, j'écris d'abord à la plume Waterman, pas la plume d'Oa, hein, mais à la plume Waterman, et je ne mets sur ordinateur que la deuxième version. Je fais généralement trois versions avant de le faire lire à ma sœur, qui est ma première lectrice et correctrice et qui corrige bien. Tu connais très bien. Et donc, je fais d'abord à la plume. Alors ça, et après, donc, je réécris en même temps sur ordinateur. Et là, il y a deux manières de travailler. En fait, on a deux manières un petit peu inversées. Il y a ceux qui prennent, qui font un original assez volumineux et qui réduisent et qui enlèvent et qui enlèvent. C'est ce que tu fais, toi. Il y a les gens maigres, parce que moi, ça n'a rien à voir avec mon physique, hein, je fais plutôt une première écriture maigre, c'est-à-dire, je raconte l'histoire. Moi, au début, je dis, est-ce que je suis capable de raconter une histoire qui ne va pas enquiquiner les gens? Parce qu'on a tous les droits, un écrivain, c'est Dieu, c'est génial, on a tous les droits, sauf d'ennuyer le lecteur. Donc, effectivement, au début, je me dis toujours, est-ce que je vais raconter une histoire? Est-ce que ce que je raconte, c'est une histoire? C'est un côté un peu conteur. Donc, je raconte mon histoire. C'est bien écrit, c'est mal écrit, ça dépend des moments, des jours. Il y a des jours où on n'a pas trop on est moins en forme que d'autres. Des fois on écrit bien, des fois on écrit mal, c'est pas grave. J'avance mon histoire jusqu'au bout et je regarde ce que ça fait. Et une fois que je dis, bon, ok, l'histoire, elle se tient. Des fois je déplace, ça arrive, c'est un peu un Lego. Vous prenez un chapitre, vous le déplacez, vous prenez une scène, vous le déplacez, vous démontez votre bouquin, vous le remontez. Et une fois que je dis, bon, l'histoire se tient, après je fais ma deuxième écriture sur ordinateur où là je travaille beaucoup plus le style, je travaille beaucoup plus la construction, j'enrobe en définitive chaque scène pour la visualiser, la décrire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là effectivement je grossis, moi je pars d'un manuscrit plus petit et je le grossis pour arriver au résultat final.
Vous vous souvenez, à la cantine on avait les petits pots de glace vanille chocolat ou vanille fraise où il y avait deux côtés. Moi je me souviens que l'éternelle question c'était... Quel est le parfum qu'on préfère? Est-ce qu'on commence par le parfum qu'on préfère? Sachant que si on meurt entre les deux, voilà, vous avez eu ces interrogations aussi, non? Moi, je me souviens, c'était la question quand on était en primaire. C'était voilà, vanille fraise, j'aime pas la fraise. Est-ce que du coup, je commence par la fraise pour finir par le meilleur? Ou est-ce que du coup, je commence par la vanille et puis voilà. Mais c'est vrai que Jean-Luc et moi, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, je commence par la vanille, c'est ce que je préfère. Donc d'abord, je commence à l'ordinateur, je me fais plaisir. Je sors tout ce qui me passe par la tête, etc. Et la version suivante, c'est la fraise, où là, c'est bon, bah, maintenant, il faut réfléchir, tailler, c'est moins drôle. Jean-Luc, lui, il commence par la fraise.
Non, parce que moi, j'aime pas l'ordinateur, je m'en sers parce que c'est normal.
C'est pour ça que tu commences par la partie chiante, on va dire, et après, tu te fais plaisir.
Mais moi, c'est
moi je me fais d'abord plaisir, et après, je suis sage.
Moi, j'aime bien écrire la plume. Les premières versions, les deux premières versions sont très excitantes, parce que la première, on est vraiment dans la construction de l'histoire, donc moi, je fais un plan, je fais toujours un plan de travail. Mais c'est un plan souple, c'est pas dictatorial. Donc je dirais, on part d'une manière d'écrire. Des fois, en cours de route, on dit, tiens, on fait des liens dans sa tête. On dit, tiens, il faut que je pense à lier ça. Donc on dévie un petit peu dans son travail. Et effectivement, mais ça, c'est très excitant, par contre. Je dis, tiens, bon sang, j'ai trouvé un lien entre tel personnage et tel personnage. Je vais les faire se rencontrer à telle époque. On construit le plan, on modifie le plan, on le reconstruit tout en écrivant. Et ça, c'est extrêmement excitant. Et la mise sur ordinateur, c'est très bien, parce qu'effectivement, là, on travaille vraiment l'écriture elle-même, quoi, la musique des mots, ça c'est super.
Après, on a un point commun. Ouais. On écrit tous les deux dans notre lit.
Oui, avec Proust et Descartes qui faisaient aussi ça. Mais...
La différence, c'est que moi, j'écris assis. Descartes. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est le meilleur. Enfin, on en a beaucoup qui écrivent la nuit, et même Cyril Massarotto qui, lui, écrit dans sa baignoire. Ça m'a fait toujours beaucoup rire. Il écrit la nuit dans sa baignoire, ça m'a fait toujours rire. Mais c'est vrai que le matin, quand on se réveille, en fait, on ne pense pas encore aux factures, aux machins, on n'a pas encore le pied dans la réalité. Et c'est le moment où on sort des rêves, on est encore entre ici et là. Et pour moi, c'est vrai que moi, dès que je me réveille, je vais en mode zombie me faire un thé, je me remets sous les couvertures, j'allume l'ordi. Et là, ça vient tout seul parce que voilà, justement, il n'y a pas le téléphone qui sonne, il n'y a pas les factures, il n'y a pas le machin, il n'y a pas le DF à payer. Là, on peut vraiment voilà, partir, surtout toi qui pars au Moyen-Âge ou voilà. Alors que c'est vrai qu'écrire l'après-midi, moi, c'est quasiment impossible. Des corrections, oui, mais l'après-midi, non.
Pareil, chacun a son tempo. Il y a pas mal de gens qui écrivent debout. J'ai aperçu, je sais que Victor Hugo le faisait, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent debout. Ça me fait mal aux jambes d'y penser. Mais c'est vrai que l'endroit où on écrit, la manière dont on écrit, techniquement, je dirais, c'est assez impressionnant, parce qu'il y a vraiment de tout. C'est le gars qui a fait le bouquin sur le fakir dans la Malikéa. Ah, oui. Il a écrit son bouquin. Il écrivait en allant, je crois qu'il prenait le métro ou il prenait un train pour aller travailler. Il avait 1h30 de trajet et il écrivait sur son téléphone portable son bouquin. Il l'a écrit comme ça tous les jours sur son téléphone portable qu'il envoyait donc à son ordinateur chez lui. Et en retour, il continuait à écrire. C'est impressionnant quand, cette manière de fonctionner. Alors ça, je crois que je ne saurais pas faire. Moi, il me faut du calme. Voilà, pas de bruit.
Mais ça, c'est parce que tu connais rien aux ordinateurs.
Exactement. Je déteste ça. Si en plus, il fallait que j'écrive dans le train. Alors, voilà, c'est nos petites manies d'écriture. Voilà. Ça, c'est nos petits trucs. Sinon, après, ce qu'il faut bien apprendre, c'est que beaucoup de gens me demandent comment écrire. Je dis, il n'y a que deux secrets. D'abord, il faut écrire. Si vous en avez envie, écrivez. C'est tout. Ça, c'est la première chose. Même mal, ce n'est pas grave. Parce qu'on corrige après. Souvent, les gens, ils veulent que ce soit bien tout de suite et ils sont bloqués par ça. Ils disent, je ne suis pas prêt, je n'ai pas l'inspiration. Si on attend l'inspiration, on va attendre longtemps. Donc, déjà, quand on écrit, il faut écrire. C'est vraiment un boulot, il faut le faire comme un métier régulièrement. Et puis après, c'est le lâcher prise de la tête. Ça, moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Pendant longtemps, j'ai fait des essais, je n'ai pas fait de roman, je voulais faire du roman. Et j'avais le sujet, mon premier roman, je l'ai gardé 10 ans sous le coude. Hein. Je savais que le sujet était très bon, c'est un fait divers qui était excellent comme thème de roman. Mais je ne me sentais pas prêt, parce que je n'avais pas compris qu'il fallait lâcher, il faut que le cerveau lâche prise. On écrit avec le corps, on n'écrit pas avec la tête. On pense le projet, puis à un moment donné, il faut lâcher prise et se laisser tomber, laisser écrire le corps. Et ça, j'ai longtemps que je n'ai pas su le faire. C'est pour ça que j'ai commencé mon premier roman, j'avais 45 ans, quoi. En 2000. C'était le changement de millénaire, j'ai dit, c'est le moment ou jamais, j'y vais, je m'y lance. J'ai mon sujet, on verra ce que ça donne. Mais pendant longtemps, j'avais ce désir de dominer quelque part, de tenir par la tête. En fait, il faut le tenir par le corps, Laurent. Ça, c'est un truc. Là-dessus, tu es d'accord avec moi ?
Ah, je suis entièrement d'accord. Déjà, une première chose, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est le premier roman ou le machin et tout. En fait, c'est comme Mozart, enfin, y a des heures et des heures d'exercice avant, et pour nous, en fait, c'est le 10e, le 15e, le 20e. Moi, dans mon ordinateur, le dossier roman en cours, inachevé, machin, brouillon, etc., il y en a une panoplie, mais c'est monumental. Des romans où j'écris 100 pages, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai passé à autre chose, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est plus on écrit, plus on apprend à écrire, plus ça devient facile, plus on s'auto-corrige soi-même parce qu'on rend compte que nos phrases sont pas bien, etc., jusqu'à ce qu'en fait, vraiment, ça permette de couler. Donc oui, c'est peut-être du talent, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de travail. Et même tous les écrivains connus souvent le disent que même quand ils n'ont pas de roman en cours, ils se forcent à écrire tous les matins. Moi, je sais que je tiens des journaux intimes depuis que j'ai 8 ans. Donc quand je n'écris pas, de toute façon, je passe au moins une heure par jour à écrire tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment à maintenir ce flux des mots, en fait. Après, au niveau des corps, c'est certain. C'est sûr que quand on écrit, il ne faut jamais penser à « mais qu'est-ce que les gens vont penser du roman ?» et machin, etc. Parce que sinon, on se bride et on n'écrit plus. Moi, je sais qu'il y a un roman où c'était mon deuxième, j'ai eu beaucoup de mal à écrire parce que j'étais en couple et je savais que si ce roman sortait, ça passerait très mal vis-à-vis de mon compagnon. Et du coup, je me suis bloquée toute seule. Et en fait, j'ai réalisé qu'à force de penser à l'après, je n'étais plus dans le présent. Et quand on écrit, c'est vrai qu'il faut être totalement dans le présent. Et c'est en lâchant tout en plus que la magie, elle est là, en fait. Parce qu'à partir du moment où on retient les choses, c'est moche, les mots sortent pas, c'est abrupt, ça va pas, en fait. Alors qu'une fois qu'on lâche vraiment prise et voilà, on écoute son corps, que ça vient du ventre de Comarque, à partir de là, franchement, c'est vraiment ce qui sort, c'est ce qui devait sortir.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, d'ailleurs, les écrivains, mais comme tous les artistes, sont égocentriques par profession. Pas égoïstes, forcément, mais égocentriques, c'est sûr. Donc, extrêmement chiant à vivre, parce qu'effectivement, tout le roman, toute l'écriture passe par l'intérieur de soi. Donc, quand vous êtes en train d'écrire, il y a des moments, c'est vrai qu'on n'aime pas être dérangé. Entre écrivains, on se comprend. Ça, on en discute des fois. Et c'est vrai, je l'ai bien chanté à ça, mais je suis en train d'écrire, alors je suis... Ça ne dérange pas. Je ne dis pas exactement parce qu'elle veut manger. De toute façon, elle ne veut rien manger. Donc,
c'est... non, c'est vrai que quand je suis en train d'écrire, moi, j'écris à l'ordinateur. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, là, quand j'écris à la main, j'ai rapidement mal à la main. Quand j'écris à l'ordinateur, je ne regarde pas les touches. Ce qui fait que, par exemple, je vais fixer généralement un point. Je suis dans mon univers avec mes personnages, etc. Je ne vois plus ce qui se passe. Je suis vraiment dans mon monde. Et donc, j'écris sans regarder l'écran. Donc sur une feuille, il faut revenir à la ligne, il faut machin, etc. Alors que sur l'ordinateur, je sais que je peux écrire pendant 4 heures, j'oublie carrément que je suis en train d'écrire. Donc si je suis en train de fixer un point, que je suis dans mon univers, et là, il y a un éléphant rose qui passe, honnêtement, je ne vais pas le voir. Mais c'est vraiment, c'est, je ne verrai pas ce qui se passe, je n'entends plus les sons, je suis complètement déconnectée, on peut faire le guignol devant moi, je ne vois pas, je suis dans mon monde en fait. Donc voilà pourquoi j'écris à l'ordinateur.
Parce que moi, je ne sais pas faire ça.
C'est juste, en fait, moi, je vais écrire les romans à l'ordinateur parce qu'en fait, ça me permet d'écrire aussi vite que je pense. Donc voilà pourquoi j'écris. Par exemple, la poésie, je suis incapable, ou les chansons, je suis incapable d'écrire à l'ordinateur, j'écrirai toujours à la main. Et c'est vrai que voilà, je suis incapable d'écrire un beau poème à l'ordinateur, je suis incapable d'écrire un beau roman avec la plume. Parce que ce n'est pas du tout le même moyen d'expression. Après, je suis aussi scénariste. C'est vrai qu'en tant que scénariste, je travaille beaucoup plus à la main, justement, parce que je n'ai pas cette musicalité des phrases que j'ai dans le roman. Donc au contraire, le scénario, je vais beaucoup plus réfléchir. Alors là, j'ai besoin de mes bics avec 26 couleurs. Généralement, alors ma chambre se transforme, c'est à l'apocalypse, il y a des feuilles partout, il y a des plans, il y a des personnages, des machins, etc. J'utilise au taquet de pâte à fixe parce que je vais coller tous mes plans sur les murs. Et là, c'est vrai que je n'ai pas du tout utilisé l'ordinateur. C'est vraiment, j'ai ma panoplie de couleurs et j'ai besoin d'avoir l'écriture, de sentir pour aller chercher les personnages. Alors que, ouais, une fois que j'ai les phrases, là, il me faut l'ordinateur.
Et moi, c'est marrant parce que tu as parlé de vitesse d'écriture. Et moi, c'est exactement le même problème. J'écris à la plume à cause de la vitesse d'écriture. À l'ordinateur, j'écris trop vite. J'arrive même à le bloquer, des fois. Alors que j'écris plus vite qu'il peut enregistrer. Alors que la plume, même par rapport à un feutre ou un bille, la plume m'oblige à ralentir ma pensée. Et donc, je pense, j'écris ce que je pense. Sinon, ça se disloque entre les deux. La plume, pour moi, c'est exactement le rythme. Justement pour penser, pour moi, la musique d'une phrase, je vais la penser avec la plume. J'ai beaucoup plus de mal à la penser à l'ordinateur. Écrire à l'ordinateur des essais ou tout ce qui est articles, etc. Pour ça, je fais l'ordinateur directement. Mais tout ce qui est roman, où j'ai besoin de travailler sur le style et donc sur la musique des mots, par définition. Alors là, moi, c'est exactement le contraire, ça, je le fais à la plume pour ça. Sans compter après le bruit, le gratouillis du pain sur le papier, l'encre, tout ça.
Mais moi, je sais pas, quand je vois ces brouillons, je sais pas comment il fait, parce qu'il y a la page, c'est raturé, il y a une astérix, il y a un machin, etc. Ah, oui.
Enfin, un brouillon, ce qu'on appelle un brouillon dégueulasse. Parce que j'ai besoin aussi de ça, effectivement, parce que sur l'ordinateur, c'est trop propre pour moi. Moi, j'ai besoin d'une page où je commence à écrire, et puis je y a une flèche par là, il y en a une en bas, je prends du rouge pour ajouter notre couleur. Effectivement, j'ai besoin de faire un brouillon sale. Ça, c'est ma première version. Effectivement, elle est à peu près illisible. Je pense que même Champollion, il ne serait pas arrivé. Il y a à peu près que moi qui vais voir les miens. Mais effectivement, j'ai besoin de ça pour écrire. De toute façon, en gardant même sur ordinateur, en gardant les différentes versions, on voit l'évolution. On voit l'évolution de l'écriture. Moi, quand j'ai fini un roman, généralement, je prends un grand carton, je mets tout dedans. Je fous dans tous les brouillons, les épreuves, je mets tout ça. Et je mets ça en grenier. Je n'y touche plus. C'est vrai que je garde toujours tout. Les carnets, soit j'ai toujours. Là, j'ai dû avoir une dizaine ou une douzaine de carnets de projets de romans. C'est vrai, c'est sur ordinateur, moi c'est sur carnet, c'est la méthode ancienne, mais c'est pareil. Effectivement, j'ai des projets de romans, les thrillers, à City, j'ai dit, je vous en propose 10. Parce que j'ai 10 projets, alors, si Dieu me prête vie, de thrillers avec les mêmes héros, qui vont parcourir, on va dire, sur une dizaine d'années, on va pouvoir croiser les histoires que je les ai déjà. Il m'arrive, des fois j'en prends un bout, je prends quelques notes sur mon carnet. Et puis des romans historiques, c'est pareil, j'en ai avoir 3 ou 4 ou 5 en projet aussi. Voilà, donc j'ai différents carnets où je rajoute des petites notes comme ça, toujours à droite, toujours à gauche. Parfois, je ne sais pas toujours le prochain que je vais écrire, parce que parfois il y en a un qui est prêt avant les autres, il est mûr. Ça y est, j'ai tout, j'ai mes sources, j'ai mon histoire, j'ai mes personnages, allez hop, on sort le carnet et puis... J'en ai plein, comme ça, j'ai pratiquement les 10 thrillers, je les ai. J'ai l'éditeur, je peux vous les raconter, si vous voulez, je vous raconte l'histoire, je les ai. Alors, pour un thriller, j'en fais moins que pour un roman historique. Parce que j'ai fait 4 romans historiques, déjà, avant celui-là. Et le roman historique demande un travail de recherche plus approfondi, parce que sur un roman historique, on va rester plus longtemps sur un fait historique. Oui, sur celui que je vais sortir, parce que celui-là, j'ai bien dans la tête. Le prochain, qui est un roman historique sur Montaigne et les guerres de religion, donc qui est en lecture chez Lattès, je ne sais pas s'ils vont le prendre, il est en lecture. Si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Effectivement, là, vous avez par exemple, je vais passer 5 ou 6 chapitres sur la rencontre de Montaigne et Marie de Gournay, son dernier amour, qu'il appelle sa fille d'alliance, qui est alchimiste. En fait. Donc je peux poser mon histoire pendant 6 chapitres sur un épisode très, très, très dense. Donc là, effectivement, il faut travailler beaucoup le détail. On va travailler le détail vestimentaire, le détail alimentaire, l'environnement. On va beaucoup travailler, je vais beaucoup travailler ça. Sur un thriller où le rythme est beaucoup, beaucoup plus rapide, il y a besoin de moins de recherche, c'est moins dur à écrire. On peut aller, même si moi j'adore l'histoire, je fais quand même un travail historique assez costaud, parce que j'aime ça, j'aime me plonger dans l'histoire. Même mon défaut pour un thriller, c'est presque de dire d'aller trop dans l'histoire. Il faut que je me limite, dire attention, bride le cheval un petit peu, voilà, parce que sinon... voilà. Ah oui, parce que je veux partir. Mais il faut que le thriller ait un certain rythme. Je ne vais pas faire un chapitre de 20 pages sur une partie historique, et puis après un chapitre de 5 pages sur un événement criminel. Ça, c'est très mauvais. Pour un thriller, ce serait illisible. Donc effectivement, il faut que je garde cette espèce de rythme très, 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 très vif, je dirais, dans l'écriture. Alors dans un roman historique, on peut poser le roman, on peut... Là, sur Montaigne, j'ai fait toute une grosse partie sur la cour de Nérac, puisque Henri de Navarre avait une cour à Nérac, donc qu'on a beaucoup oublié, qui est très importante avant d'être roi de France, que Shakespeare situe une peine d'amour perdue à la cour de Nérac. Et donc une cour avec des alchimistes, des artistes, avec la reine Margot et toutes ses aventures amoureuses, et Henri de Navarre et toutes ses aventures amoureuses de son côté. Donc là, il y a toute une partie qui se passe là, et donc autour de ce château, dans un roman historique, ça, je peux le développer, je peux travailler, savoir ce qu'ils mangeaient. On est allés ensemble visiter le château de Nérac. Le château de Nérac, il y a la liste des banquets, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Alors là, mais sur ça, moi, j'ai pris tout. Ça, pour le romancier, c'est de la doc extraordinaire. Dans un thriller, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas dérouler ça dans un thriller. Il faut que ça avance beaucoup plus vite, quelque part. Je vais être beaucoup plus dans l'événement et moins dans le descriptif. Part. Je vais dans le descriptif de l'événement et pas dans le descriptif dans la périphérie.
Alors après, il y a quand même des recherches de base à faire, même dans un thriller, dans le sens où à partir du moment où, par exemple, le héros a tel ou tel métier, de toute façon, il faut quand même le connaître. Moi, je sais que le prochain, ça se passe dans une ferme en Normandie. Je suis allée en Normandie, je suis allée voir comment se passe la traite des vaches, j'ai posé des questions sur les engrais, les machins. J'ai fait du quad, c'était génial, mais j'ai quand même passé 2 jours à poser toutes les questions, à voir comment ça se passe, le quotidien, voilà, comment ils s'habillent, qu'est-ce qui est compliqué, oui, ils ont mal au dos, pourquoi, etc. Au niveau de, bah, après de tout, est-ce qu'ils ont une sécu, est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin, des choses qu'on ne sait pas forcément, pour vraiment me mettre dans la peau du personnage et quand je le décris, en fait, vraiment avoir sa vie. Donc de toute façon, même si ce n'est pas des recherches historiques, de toute façon, on fait toujours des recherches. Après, c'est vrai qu'il y a des recherches qui sont plutôt... drôle. Enfin, j'en avais un où un de mes personnages, je voulais qu'il soit atteint d'une maladie, on va dire, mortelle dans 80% des cas. Donc, je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit, bon, alors voilà, je voudrais une maladie qui soit mortelle dans 80% des cas. Écoute, c'est vrai, d'habitude, c'est plutôt l'inverse, les gens veulent guérir. J'étais, ah non, mais alors voilà. Alors, il faudrait qu'il ait ça, mais ça, machin, etc. Donc, il a commencé à prendre son dictionnaire. Alors, oui, alors un lymphome. Ah ouais, non, lymphome, ça va, t'as pas autre chose ? Alors, machin, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, c'est marrant d'aller faire des recherches où en fait, même les gens sont ravis de nous aider parce qu'ils ne sont pas habitués. Et...
Tout à fait, oui.
Pareil, la dernière fois, j'ai dû aller aux pompes funèbres pour leur poser des questions. Et la femme était complètement estomaquée, on va dire, de ma démarche. En même temps, elle était ravie de me montrer comment on faisait une plaque et tout. Et d'ailleurs, il faut que je la cite dans les remerciements du livre. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que en étant écrivain, en fait, on apprend à être tous les métiers. On va... Enfin, honnêtement, qui irait voir des pompes funèbres pour savoir comment ça se passe, pour faire des plaques, etc. C'est pas quelque chose auquel on pense. Et là, d'un coup, on va s'intéresser à des métiers où on n'aurait même pas pensé s'y intéresser. On va aller voir des choses. Les gens sont toujours ravis de nous recevoir parce que forcément, on va mettre une partie de leur vie dans nos romans. Et ça, c'est vraiment un travail magnifique. Enfin, c'est une partie, moi, que j'adore. D'aller à la rencontre des gens pour justement savoir comment ils vivent pour nous le transcrire.
Moi, ce qui vient, c'est pour les romans historiques, parce que moi, je suis vraiment toujours, même mon thriller, donc ça passe en partie à l'époque des Templiers, ce dont j'ai besoin, c'est presque un déclencheur d'écriture, c'est d'une musique particulière, une sorte de musique de l'écriture. Parce que j'ai fait un roman qui se passe au Moyen-Âge, enfin deux qui se passent au Moyen-Âge, celui-ci et puis un sur les cathares. J'en ai fait un qui se passe donc le prochain, celui qui va sortir au XVIe siècle, à l'époque d'Henri IV. J'en ai fait un au XVIIe siècle et j'en ai fait un à l'époque de la Résistance. Au 20e siècle, enfin, deux à cette époque-là, d'ailleurs. Et donc, chaque fois, j'essaie de trouver non seulement les sources historiques, ça c'est une chose, mais une certaine musique. C'est que celui qui se passe au 17e siècle, c'était mon deuxième roman, L'honneur de Hautefort. Je ne connaissais pas spécialement le 17e siècle. Il y avait un fait divers qui m'a intéressé, qui s'était passé en Périgord, à côté du château d'Hautefort. Je ne sais pas si vous avez visité ce château dans l'est du Périgord. C'est le Versailles du Périgord, c'est un château très 17e. Et je connaissais pas vraiment à l'époque, j'avais un fait divers sur l'histoire du crime entre quatre familles nobles, et je m'étais dit, il faut que je rentre dans l'époque. Et j'avais relu tout Molière, tout Madame de Sévigné, avant de commencer à écrire, pour avoir la musique, pour avoir la musique de cette époque-là. Non pas pour écrire comme eux, je n'ai pas cette prétention-là. Et en plus, ce ne serait pas forcément très... Ça pourrait peut-être ennuyer le lecteur si on rentrait dans la musique d'une époque, dans l'écriture d'une époque. Mais pour pouvoir teinter mon écriture à moi de ça. Quand j'ai fait le roman sur les cathares, le talisman cathare, dans l'Espagne, je n'ai pas pris la langue du Moyen-Âge, qui est incompréhensible aujourd'hui, mais j'ai redécouvert le chant de la croisade, c'est la croisade contre les cathares, dans la traduction d'Henri Gougaud, qui est... On dirait du Homère, c'est aussi beau que du Homère. Je vous conseille de la lire, avec des descriptions monstrueuses de massacres, de bûchers, mais avec toute justement les épithètes homériques et ce descriptif fabuleux, très très musical. Et j'ai lu ça avant d'écrire, parce que j'ai dit, je vais rentrer là-dedans. Et pour celui que je viens de finir, là, sur Montaigne et les guerres de religion, je suis un grand fan de Marguerite Yourcenar, c'est ma romancière préférée en tant que dans les romans historiques, je suis un inconditionnel. J'aime tout de Marguerite Yourcenar. Et là, j'avais lu deux fois l'œuvre au noir, mais ça remontait à très longtemps. Et j'ai relu l'œuvre au noir, j'ai eu un plaisir extraordinaire, mais fabuleux. Ce que je disais à Séverine, moi qui fais de la chronique littéraire, donc je chronique des bouquins qui sortent, c'est un peu le désespoir du chroniqueur et du libraire, c'est qu'on est obligé de lire ce qui sort, qui n'est pas toujours terrible, qui est pas mal parfois, souvent pas terrible. Et là, quand vous relisez un grand, comme Marguerite Yourcenar, vous dites oh, la différence de niveau qu'il y a d'écriture entre ce qui sort, ce qui est sorti depuis 3 ou 4 ans, et puis Marguerite Yourcenar, on avait dit mais là, c'est la Bible, là, c'est extraordinaire. Et effectivement, je me suis inspiré, alors je n'ai pas copié, je m'inspire de son écriture, de ça, comment elle a rendu le XVIe siècle, comment elle a rendu son. Puisque ça se passe à peu près 30 ans avant mon époque à moi, avant Montaigne. Donc je suis inspiré de sa manière d'écrire, de parler de l'alchimie, de parler de guerre de religion, puisqu'on traite aussi du même sujet, pas au même endroit. Et donc, je me suis inspiré d'elle, de sa musicalité. Et ça, c'est mon déclencheur. Là, quand j'arrive à saisir la musique, je dis, ça y est, là, le roman, je le tiens. Je sais que je le tiens. Alors, c'est plus facile pour les romans qui se passent de nos jours. Ça, la musique, on l'a un petit peu naturellement, je dirais. Mais dès qu'on passe dans les époques anciennes, pour moi, il faut que chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je prendrais. J'ai plusieurs projets, bien sûr, qui se passent à différentes époques. Qu'est-ce que je prendrais comme roman pour me donner la musique du 19e siècle, de l'époque de la Révolution, de Napoléon. J'ai un projet sur cette époque-là. Voilà, qu'est-ce que je prendrais comme bouquin. Est-ce que je prendrais Chateaubriand, peut-être, par exemple, pour parler de cette époque-là. Peut-être, voilà. Je sais que je prendrais un ou deux auteurs pour me donner la musique d'écriture. Ce qu'appelle, moi, la musique d'écriture.
Il y a juste un élément qui est vrai dans ce livre, un personnage qu'en fait j'avais totalement mis de côté inconsciemment. Et après la première lecture, mon éditeur m'a dit « Mais pourquoi tu ne développes pas ce personnage ?» Et j'ai réalisé qu'en fait inconsciemment, c'est parce que ça m'ennuyait d'aller là, parce que ça mettait le doigt là où ça faisait mal en fait. Et heureusement que l'éditeur était là derrière moi pour honnêtement me mettre un coup de pied au cul en me disant « Bah t'y vas, t'as voulu l'écrire ce livre, maintenant tu vas le chercher ce personnage et t'en parles. » Parce que de moi-même, j'aurais pas osé, je l'aurais même pas vu en fait que je l'avais mis de côté. Donc oui, la réécriture est nécessaire.
Ouais, mais je pense qu'il faut arriver de façon à se différencier de son livre. C'est sûr qu'on le porte. Moi, en plus, je mets 9 mois généralement pour faire un bouquin. Donc je fais pas exprès, mais je mets toujours 9 mois pour faire un bouquin. C'est comme ça. Ça tombe toujours sur 9 mois. Bon, je fais pas exprès. Donc, comme je dis toujours, après, quand on a fini, on a une petite dépression, comme après l'accouchement, on a une petite dépression quand on a fini. On est mal. Puis au bout de 15 jours, on dit, j'écris pas pendant 6 mois. Puis 15 jours après, on recommence, bien sûr, parce qu'on peut pas s'en empêcher. C'est comme ça. De toute façon, on y revient automatiquement. Mais effectivement, la partie la plus difficile, souvent pour beaucoup de gens, c'est de différencier eux de leur livre. C'est de dire, attention, alors on écrit que pour soi. Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qui veulent publier des trucs qui ne sont pas publiables. Je me tue à leur dire. Et je dis, il faut à un moment donné dire, les gens ont l'impression que ce qu'ils ont écrit est très bien, puisque ça vient d'eux. Donc ça les touche. Même quand c'est pas publiable, quand c'est pas bon, ils ne voient pas. Beaucoup de gens ne voient absolument pas, ils n'ont aucun regard critique sur ce qu'ils écrivent. Et effectivement, ça, c'est le rôle de... Ou on le fait tout seul, si on peut, ou c'est le rôle de l'éditeur de dire non, maintenant, il faut sortir. Parce que le livre, il a sa vie à lui tout seul. Le livre, je dirais, il est à vous, il n'est plus à moi. Aujourd'hui, il est au lecteur. Qui peuvent y trouver des choses que je n'ai pas forcément mises. Le livre appartient au lecteur. Il n'appartient plus du tout, une fois qu'il est édité, il n'appartient plus à l'auteur. Et ça, il faut faire cette séparation. Parce que souvent, beaucoup de gens ne savent pas la faire. Je me rappelle un jour, j'étais au salon du livre de Limoges. avec Marie-Claude Gay, qui est une romancière comme moi, que tu connais bien. Et donc, il y a une Brive, que je connais très bien, les voisins. Et il y a une dame qui est venue la voir. Elle venait de Bordeaux. Elle est venue exprès. Elle l'avait rencontrée, je pense, au salon de Bordeaux. Et pour lui amener son manuscrit qu'elle avait écrit. Et alors Marie-Claude commence à... Elle avait quelques temps morts dans le... Pourtant, elle me dit, moi, j'ai beaucoup de morts. Elle avait quelques temps morts. Elle regarde, elle commence à lire. Elle me dit, Jean-Luc... Et c'est vrai qu'il n'y avait rien. C'était absolument plat. Alors cette dame, elle avait mis toute sa vie, elle avait mis tout elle-même dedans. Mais à lire, pour le lecteur étranger que j'étais, moi ne la connaissant pas, Marie-Claude ne la connaissant pas non plus, elle avait lu ses livres, donc elle voulait rencontrer Marie-Claude Gay parce qu'elle avait lu ses livres. Et donc, on lit, on dit effectivement, il n'y a rien. C'est, voilà, pour le lecteur, c'est complètement plat. Là, à un moment donné, il lui manquait... C'est très dur de dire ça aux gens, il faut vraiment prendre des paroles. Parce qu'eux, ils y ont vraiment mis toute leur âme, quoi, toute leur vie, des fois des choses très douloureuses, des blessures de couple, d'enfants, enfin, des choses terribles. Et ça, c'est pas très évident. Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire et qui n'arrivent pas, parce que justement, ils ne font pas assez la différence entre eux, leur vie et le livre. Le livre, si on veut le faire lire à quelqu'un d'autre, même si je racontais ma vie, même si je fais comme Lionel Duroy qui raconte sa vie tout le temps, mais bon, il met quand même un roman, et on ne sait jamais, il peut toujours tricher, on ne sait pas ce qu'il a mis vraiment de vrai ou de pas vrai, même si tout a l'air vrai. Voilà, le livre est au lecteur, c'est ce que j'ai toujours.
En fait, c'est vrai que moi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, par exemple, de brouillon dans mon ordinateur, c'est que souvent, il y a les livres que j'ai écrits pour les lecteurs et les livres que j'ai écrits pour moi. Et j'ai le double défaut d'être jeune et d'être bélier, ce qui fait que Jean-Luc m'a donné un merveilleux conseil que j'ai très vite appliqué parce que ça m'a sauvé la vie. Il m'a dit, en bref, une fois que tu as fini d'écrire, tu vas te prendre des vacances, tu mets ton livre de côté pendant un mois ou deux et tu relis qu'un mois ou deux plus tard. Donc au début, forcément, j'étais oui, bon, ça c'est bon pour tes conseils à toi, mais voilà. Jusqu'à ce que j'écrive des trucs, c'était ma petite personne égocentrique qui avait écrit ça, et en fait, on me dit derrière, bon, c'était bien mignon, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton histoire, Sève ? Ah oui. Et là, je me suis dit, en fait, le conseil de Jean-Luc, c'était pas mal, parce qu'effectivement, il y a les choses qu'on écrit pour soi et les choses qui sont beaucoup plus grandes que juste voilà, son petite histoire. Sauf qu'en fait, on ne les voit qu'avec le recul. Moi, il y a des textes que j'ai écrits qui, pour moi, étaient inintéressants. Et au contraire, on m'a dit, mais si, vas-y. Et d'autres choses à l'inverse, parce que sur le coup, parce que j'avais une rupture amoureuse, parce que du coup, j'étais obnubilée par ça. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, ça, c'était strictement inintéressant. Et donc, il y a ce petit deux mois de réflexion qui est nécessaire pour vraiment... rencontre la différence entre voilà, ce qui a été sorti de soi mais qui reste pour soi et ce qui a été sorti de soi et qui doit justement être donné.
C'est ce qui manque à beaucoup de bouquins. D'ailleurs, dans beaucoup de livres qu'on reçoit, en tant que, là, je parle en tant que libraire, il y a beaucoup de livres justement qui manquent ça. Il manque les quelques mois où on pose le manuscrit, on ne travaille pas dessus, où on le reprend avec un regard neuf. C'est un peu la faute des auteurs et des éditeurs qui veulent publier à telle date. Il faut publier tous les ans au mois de juin, tous les ans au mois de janvier. Donc, qui poussent un petit peu les auteurs à publier vite. Et puis, c'est une affaire d'argent, parce que plus vous signez tard, plus vous publiez tard, plus vous touchez tard votre argent, bien évidemment. Donc, souvent, les auteurs ne prennent pas ce recul. Et ça se voit. Moi, je sais qu'en tant que lecteur, des fois, j'ai dit, ce bouquin, il aurait été pas mal si l'auteur avait pris deux mois de plus pour travailler. Parce qu'on voit que c'est trop vite. C'est trop vite. Il n'a pas pris de recul. Ça, c'est un truc, alors, c'est l'avantage quand vous n'êtes pas trop célèbre, c'est que les éditeurs ne vous en mettent pas trop. Donc, on peut prendre deux mois de retard, on est un peu son propre maître. Mais les gens qui sont... Je parle toujours de Jacques Ravel, parce que je connais bien, donc il sort tous les ans au mois de juin. Ils écrivent à deux, en plus, donc avec Eric Giacometti, qui est un ami d'enfance, d'adolescence, ils se connaissent depuis très longtemps, ils écrivent en plus, l'un dans l'autre, l'autre à Paris. Et ils travaillent comme des ouvriers d'usine, ils m'ont expliqué, un an à l'avance, ils savent, en telle date, on se voit à tel endroit, là, on se voit à tel endroit, là, on remet telle chose. Là. C'est un travail d'ouvrier d'usine, pratiquement. Ils ont de la pub, donc la pub, elle est retenue pour avoir des affiches dans le métro, à Paris, c'est un an à l'avance. Donc, on n'a pas intérêt à être en retard sur le manuscrit. Et c'est pareil pour les rendez-vous presse, pour les grands rendez-vous. Bon, avec Sud-Ouest, ça va encore. Mais les grands rendez-vous presse, c'est pris presque un an à l'avance. C'est pour ça que, quand vous regardez comment fonctionnent les auteurs les plus connus, ils font tout sur 15 jours. Ils font leur promotion sur 15 jours, 3 semaines. Après, c'est fini, on ne les voit plus. Ils rassemblent tout est prévu à l'avance, ça sort à telle date, on fait 3 semaines de promo. Bon, alors c'est vrai, quand on est un peu moins connu comme nous, c'est l'avantage. Effectivement, on n'a pas cette pression. On peut dire, bon, le bouquin, on le sortira deux mois plus tard. Bon, on n'a pas la même pression. ce qui de ce côté-là est bien. Bon, ça n'empêche pas qu'on aimerait bien avoir plus de succès aussi. Je ne dirais pas non là-dessus. Mais je redouterais d'avoir cette pression à l'écriture. Je redouterais ça.
Oui, puis surtout, moi, le plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est que pour moi, la vie sert la littérature dans le sens où je ne vis pas au jour le jour en recherche d'un sujet, d'un machin, etc. C'est je vis, et si d'un coup il y a quelque chose qui va me donner envie d'écrire, je vais l'écrire. Mais je me sens pas forcée ou contrainte à produire. Et moi, cette liberté me plaît vraiment. Parce qu'en fait, je fais pas passer la littérature avant ma vie. Pour moi, le vivre reste plus important. Maintenant, c'est un choix. Beaucoup d'écrivains me disent que justement, à partir du moment où on devient écrivain, en fait, tout est sujet à écriture et qu'on ne vit plus, vit tout par procuration. Moi, je sais qu'il y a des périodes où je vis par procuration, ou même je me réveille la nuit et je me dis « elle se réveilla, virgule, dit-elle ». Ouh là 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 là, je me dis ça et là, c'est foutu. Donc, je sais que ces moments-là, j'ai hâte d'avoir fini mon bouquin pour arrêter de penser en virgule dans ma tête. Mais le reste de l'année, je vis. Alors que c'est vrai qu'à partir du moment où on a cette production, en fait, non, il y a plus... c'est comme partir en voyage avec un appareil photo, en fait. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, vous allez vivre la même chose, mais au final, vous n'aurez pas du tout vécu la même chose. Mais vous aurez une belle photo.
Oui. Voilà. On ramène que les photos. ce qui me navre dans les productions, souvent, c'est le manque de sujet. On a l'impression que les gens, ils ne savent pas sur quoi écrire. Ils savent qu'ils écrivent, il faut qu'ils écrivent, mais ils ne savent pas sur quoi. Il y a quand même beaucoup de bouquins qui sont extrêmement vides, en général, dans la production rentrée littéraire de septembre, rentrée littéraire de janvier. Je me les fais toutes les deux. Souvent, il y a des bouquins, j'ai envie de dire, mais il manque tellement de sujets pour écrire, parce que des sujets de romans, moi, je dirais, j'ouvre le journal tous les jours, il y en a 10, c'est pas les sujets qui manquent. Après, il faut le temps, il faut le talent, on doit avoir le talent pour écrire, mais je dirais des sujets de romans, parce que le roman, il doit s'inscrire dans la vie, sinon, il n'est pas intéressant. C'est pour ça qu'il faut l'incarner dans son propre corps. On écrit avec son corps, parce que sinon c'est intellectuel, c'est pas vivant, c'est que des idées. Donc le roman, il doit s'incarner dans la vie. Et la vie, hein, dans les faits divers de Sud-Ouest, tous les jours, il y en a. Hein. Les sujets, ça ne manque pas. À partir de ça, on peut partir sur un roman qui soit bien, moyen, génial, ça dépend de l'auteur. Mais par contre, des bons sujets d'écriture, je dirais, moi, j'ai l'impression que j'en déborde. Quoi. Je sais que j'ai de bons sujets. Il faut savoir s'il faut que j'ai le temps et le talent de les faire comme il faut. Ça, c'est une autre question. C'est vous, lecteur, qui le dites. Ça, moi, j'ai travaillé. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Tout ce qui est Moyen-Âge m'intéresse. Tout ce qui est religion du Moyen-Âge m'intéresse en général. Et puis, en plus, tout ce côté mystérieux m'intéresse encore plus. Alors, j'ai fait un gros livre sur les Templiers chez Sud-Ouest, qui s'appelle La France des Templiers, où j'ai relevé toutes les commanderies existantes dans les départements en France, en Belgique, etc. J'ai fait plusieurs conférences sur le sujet. Et je m'étais servi déjà les Templiers dans mon roman qui s'appelle Le Talisman Cathare. J'ai fait une rencontre entre Cathare et Templiers, même si le roman était basé sur les Cathares, mais ils se rencontraient dans le Tarn, si je me souviens bien, dans la commanderie de Vahour, dans le Tarn. Et donc, je faisais se rencontrer ces deux mouvements qui sont différents. Hein. Les Cathares et Templiers, c'est la même chose, mais ils sont au même moment. Ils vivent pratiquement au Moyen-Âge, aux mêmes époques. Et donc, c'est logique qu'ils se croisent. Là, effectivement, j'ai eu envie de retravailler, d'un point de vue romanesque, cette ville des Templiers, parce que c'est des gens... Les gens mythifient beaucoup. C'est un des grands mythes, les Templiers. C'est un grand mythe aux États-Unis, c'est un mythe faramineux. Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vient beaucoup de la franc-maçonnerie, parce que certaines franc-maçonneries ont essayé de réinventer l'ordre du Temple au XVIIIe siècle. Donc, effectivement, c'est un four du Temple. Hein. Mais, quelque part, ça a infiltré la franc-maçonnerie. Donc, à travers beaucoup d'obédience maçonnique, vous avez les degrés templiers. Et ça passionne les gens. La franc-maçonnerie et templiers, c'est toujours associé. Et puis, les templiers eux-mêmes, c'était déjà quelque chose d'assez mystérieux, puisque c'est quand même des gens... ils ont créé au Moyen-Âge une espèce de multinationale assez faramineuse. Ils étaient propriétaires comme d'énormes... Il y avait 3 000 commanderies en France, 10 000, je crois, dans le monde. Et c'est des gens qui couvraient un peu toutes les classes de la société. Ils étaient clergés, noblesse, tiers état, ils étaient marins, ils étaient banquiers, ils avaient absolument toutes les fonctions. Et ils ont eu, puisque moi ce qui m'intéresse c'est le rapport des religions entre elles, ils ont eu des rapports aux autres religions assez surprenants. Puisque c'est des gens, c'est vrai, je le raconte dans ce roman, je raconte l'épisode, qui est tout à fait historique, où l'ambassadeur du sultan de Damas, donc, qui est musulman, rencontre le grand maître templier à Jérusalem, et où on met à sa disposition une chapelle pour qu'il puisse prier en tant que musulman. Mais même aujourd'hui, on aurait du mal à le faire dans une église. Donc, les Templiers, qui sont des gens du Moyen-Âge, c'est des soldats, en plus, c'est quand même des combattants, mais ils ont ce respect, quelque part, de l'autre. Et ça, c'est extrêmement surprenant. C'est le grand mystère Templier, le vrai mystère, c'est pas le trésor, on s'en fiche un peu, ni même le lien avec la franc-maçonnerie, dont on se fiche un petit peu aussi. Le vrai mystère, c'est celui-là. Alors que la tolérance n'existait pas, ils avaient une certaine tolérance. Ils combattaient les musulmans à certains moments, mais ils avaient une grande tolérance, comme on le voit là. Ils avaient parfois une grande tolérance envers les cathares, puisqu'on sait qu'ils ont abrité des cathares dans le sud-ouest de la France, alors qu'officiellement, l'Église catholique les pourchassait. On sait qu'il y a des dignitaires qui habitaient dans la communauté juive d'Avignon, alors que, bon, après, voilà. Donc c'est des moines catholiques, quand même, les Templiers. Donc on voit que ce sont des gens qui ont un rapport aux autres religions très particulier. Pour moi, le gros mystère, ce qui me passionne dans les Templiers, c'est ça. Je dis, comment ces gens qui vivent à une époque où le mot tolérance n'existe même pas, qui sont des moines catholiques, parce que c'est ce qu'ils sont, et ils ne l'ont jamais renié, ils ont été brûlés, ils n'ont jamais renié leur religion. Comment ont-ils ce rapport très particulier à l'islam, au judaïsme, aux autres formes de christianisme comme les cathares, ce rapport un peu tolérant? Ça, c'est le vrai mystère. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Je pense que c'était pas des intellectuels, c'était des gens de terrain, les Templiers. Et voilà, c'était pas des gens d'écrit, parce que ça on aurait pu comprendre que des gens d'écrit, comme les moines bénédictins, à la limite découvrent des manuscrits juifs ou musulmans et ça l'inspire. Or eux, c'est pas du tout des gens d'intellect. Donc ce que je crois, moi, c'est qu'effectivement ils ont vécu parmi les gens, parmi les autres, notamment en Terre Sainte. Ils ont vécu dans Jérusalem, à l'époque, c'est un creuset dans lequel il y a des chrétiens pas catholiques, il y a des juifs, il y a des musulmans de toutes tendances. Donc il y a une espèce de bain. Et je pense qu'ils se sont imprégnés, comme nous, les écrivains, on a dit quand on était dans le corps, ils se sont imprégnés concrètement, je dirais, du contact avec les autres. Et qu'ils ont sorti une certaine philosophie de respect des autres religions. Alors qu'il n'y ait pas de la tolérance, parce que c'est un sentiment qui est presque inexistant à cette époque-là. Peut-être d'humilité, peut-être l'humilité de dire « je ne sais pas tout ». Il y a des savants partout, il y a des savants, il y a des gens intéressants. J'ai croisé des gens intéressants, ils sont juifs, ils sont musulmans. Peut-être l'humilité qui les a conduits là, puisque c'est un sentiment a priori religieux, qui est censé l'être. Donc peut-être que ça vient de là. Mais alors là, c'est le grand mystère. Là, honnêtement, je n'ai que des hypothèses. Dessus, je n'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit, ni aucun historien. D'ailleurs, ils se cassent tous les dents là-dessus. Même Duby, même les grands historiens, ils ont tous dit, ils ont essayé, ils ont mis des hypothèses très, très vasouillardes dessus. Personne n'a vraiment trouvé la solution. Le Moyen-Âge, c'est une époque il y a des moments où l'Église est très répressive, des moments où elle l'est moins. On s'aperçoit quand on voit que c'est pas uniforme, ça dépend des moments. Hein. Mais les Templiers, ils ont existé pendant 1321, pendant deux siècles. L'essentiel des écrits templiers, c'est ou les minutes de leur procès, qui révèlent des choses très intéressantes d'ailleurs, et ou alors surtout des actes d'achat et de vente, parce que c'est des propriétaires extraordinaires. Ils achètent des terres, ils en vendent, ils achètent des châteaux, ils en vendent. Enfin, ils font du business. C'est le clair, quoi. Ils ont des succursales partout, hein. C'est grosso modo. Hein. C'est faramineux. Ils ont 10 000. Les commanderies, souvent, c'est pas des forteresses, c'est des poêles. Enfin, c'est une ferme fortifiée avec deux, trois moines qui gèrent du personnel, en fait, dessous, dans lequel il y a des femmes, dans lequel il y a un petit peu de tout. Et tout le monde prend la croix du temple. Même le bélier qui conduit le troupeau, il a la croix du temple qu'il porte en bannière. Il conduit le troupeau des Templiers. Donc on a essentiellement ça. Et j'ai les procès aussi, c'était assez mauvais coucheur. C'est qu'il faisait beaucoup de procès aux seigneurs, aux religieux à côté d'eux, pour ils se chipotaient les terres les uns les autres. On a surtout ça. On n'a pas d'écrit voilà, de philosophes templiers. On n'a pas. Voilà. On sait que Saint Bernard a inspiré, il a écrit l'éloge de la nouvelle milice, donc il a soutenu l'ordre du temple, puisqu'un de ses neveux, je crois, a été grand maître, le troisième grand maître, c'est un parent de Saint Bernard, mais il écrit l'éloge de la nouvelle milice, mais ce que dit Saint Bernard n'est pas vraiment, on ne retrouve pas cette tolérance, on ne retrouve pas ça, quoi, je dirais, dans, on ne retrouve pas ça. Là, on a aucun écrit, on a des faits, c'est ce qui est extraordinaire, là aussi pour un romancier. Ça, c'est extraordinaire. C'est parce qu'on a des faits. Et après, on peut dire, tiens, ça, je peux les monter. Alors, je m'en suis servi dans ce roman-là. J'ai monté un petit peu cette histoire, comme je l'ai ressenti, moi, comme j'ai voulu le faire. Mais effectivement, on n'a que des faits. On sait qu'ils ont abrité des cathares à Carcassonne, à Perpignan, hein. Les cathares en fuite, poursuivis par l'Inquisition. Ils les accueillent, ils les hébergent, Et ils font venir, parce qu'il y en a qui vont mourir, ils font venir le clergé cathare pour qu'il leur donne, dans le couvent catholique, ils font venir le clergé cathare pour qu'il leur donne le consolament, qui est le sacrement des cathares. Oh, je veux dire, c'est pareil, c'est complètement hérétique. D'un point de vue strict de l'Église catholique, c'est complètement vrai. De même que les déviances qu'ils font pendant la réception des moines, ça, alors, on a plein de témoignages, on a des témoignages pendant le procès, donc, qui sont pas tous sous la torture, et qui sont concordants, où effectivement, beaucoup, on leur demande de renier le Christ. Et on ne sait pas pourquoi.